Sixième partie, les codes de pouvoir. Les mots sont singulièrement la force la plus puissante qui soit à la disposition de l'humanité. Ehuda Berk Rabin. Le premier code de pouvoir, je veux. L'utilité. Ce code ancien affirme à notre corps et déclare à l'univers que nous avons le pouvoir de choisir un résultat. La source, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. Selon les meilleurs résultats scientifiques des 20e et 21e siècles, nous sommes bien plus que de simples observateurs d'un bref moment d'une création séparée de nous. Des expériences sur les photons jumeaux qui ont modifié le paradigme et révélé le phénomène de l'enchevêtrement quantique en 1997, à la découverte du champ de Higgs annoncé par les scientifiques du CERN en 2012, la science moderne rattrape son retard sur la sagesse intuitive issue de 5000 ans de traditions autochtones et spirituelles. On sait maintenant qu'un champ énergétique sous-jacent a fusionné dès la première fraction de seconde de l'univers. Les modèles informatiques, les équations mathématiques et maintenant les reconstitutions à petite échelle en laboratoire de cet événement primordial confirment que tout ce que nous savons et vivons dans notre monde est composé de minuscules paquets d'énergie, des quantas, qui émergent constamment de ce champ d'énergie dans lequel tout baigne, et y sont réabsorbés. Le champ porte des noms divers comme la matrice, la source première, la divine matrice, ou tout simplement le champ, entre autres. Ce n'est peut-être pas un hasard si la description de cette énergie suit de près les principes décrits par les traditions de sagesse du passé. Des anciens Védas indiens, vieux de 5000 ans selon certains spécialistes, au manuscrit de la Mer Morte, qui date de 2000 ans, un thème général semble suggérer que le monde reflète des événements survenus dans une sphère que nous ne voyons pas de notre point de vue dans le temps et l'espace. Néanmoins, cette sphère est bien réelle et nous en faisons partie. Nous interagissons avec elle à chaque instant de chaque jour. De ce point de vue, nos relations intimes, nos amitiés, notre état de santé, nos réussites et nos échecs, tout cela reflète des relations en cours dans la sphère invisible de ce champ. Commentant des fragments du manuscrit de la Mer Morte appelé les chants du sacrifice du sabbat, des spécialistes en résument le contenu en disant ceci. Ce qui se passe sur Terre n'est qu'un pâle reflet de cette ultime réalité plus grande. Sommes-nous des observateurs ou des créateurs? La nature du champ et notre relation à celui-ci est la source d'un débat émotif et souvent enflammé entre les esprits scientifiques depuis le 19e siècle. Les arguments techniques de la controverse sont complexes, mais sa raison est simple. Si effectivement une réalité invisible est à la source de nos expériences quotidiennes, et si nous pouvons y accéder pour changer le cours de nos vies, cela change tout ce qu'on nous a fait croire sur nous-mêmes et notre monde. Et ce changement nous permet de participer aux résultats de ce qui nous tient à cœur. Dans un passage de ses notes autobiographiques, Albert Einstein fait part de cette profonde conviction que nous sommes séparés du monde et de la vie quotidienne comme des observateurs passifs ayant très peu d'influence sur le monde environnant. Là, ce monde immense, disait-il, exige indépendamment de nous, humains, et est érigé comme une grande devinette éternelle, au moins partiellement accessible à notre observation et à notre réflexion. Par contraste avec le point de vue d'Einstein, largement soutenu par de nombreux scientifiques actuels, le professeur John Wheeler, un physicien de Princeton et collège d'Einstein, a offert une perspective radicalement différente de notre rôle dans la création. En termes francs, clairs et explicites, Wheeler a dit « Nous entretenons cette vieille idée d'un univers extérieur à nous, devant lequel l'homme, en observateur, est protégé en toute sécurité par une plaque de verre de 15 cm. Autrement dit, il reconnaissait le point de vue d'Einstein qui nous voyait séparés du monde environnant. Toutefois, cette perspective changea rapidement au cours d'une série d'expériences qui fracassèrent ce paradigme et démontrèrent que nous ne sommes pas aussi séparés du monde que nous le croyons. Parmi ces observations, mentionnons l'expérience encore controversée des interférences de Young dans laquelle des électrons, du seul fait qu'on les observe, se changent de particules en ondes d'énergie. Faisant référence à ce genre d'expérience, Wheeler poursuit. Maintenant, nous apprenons du monde quantique que même pour observer un objet aussi infime qu'un électron, il faut fracasser la vitre. Nous devons entrer. Alors, l'ancien terme « observateur » doit être rayé des livres et remplacé par « participant ». La conscience créatrice. Quel changement ! En livrant une interprétation radicalement différente de notre relation à notre corps et au monde qui nous entoure, Wheeler affirme que nous ne pouvons plus nous contenter de regarder se dérouler le monde autour de nous. Selon son interprétation de l'information, nous sommes des acteurs de changement. Consciemment ou inconsciemment, nous participons constamment aux résultats des événements de notre vie et de notre monde. Des expériences en physique quantique montrent que le fait de regarder quelque chose d'aussi minuscule qu'un électron, en focalisant notre conscience sur cet électron, ne serait-ce qu'un instant, change ses propriétés en cours d'observation. Les expériences suggèrent que cet acte même d'observer est un geste de création et que la conscience est créatrice. Ces découvertes semblent appuyer l'affirmation de Wheeler selon laquelle nous ne pouvons plus nous considérer comme des simples témoins dépourvus d'effets sur le monde que nous observons. Lorsque nous regardons l'expression quotidienne de notre abondance spirituelle et matérielle, nos relations, notre carrière, notre santé physique, nos amours les plus profondes et nos plus grandes réussites, ainsi que nos peurs et le manque de tout cela, nous pourrions en fait regarder directement le miroir de nos convictions les plus vraies, mais parfois les plus inconscientes. Nous les voyons dans notre environnement parce qu'elles se manifestent par un champ d'énergie omniprésent qui relie toutes choses en tout temps. Nous sommes les artistes et les œuvres. Nous formons le champ. Les atomes de nos corps physiques apparaissent et disparaissent sans cesse, émergeant et s'effondrant suivant le plan de notre conscience de produire les identités qui nous sont familières. Autrement dit, tels des artistes, nous exprimons nos passions, nos peurs et nos désirs les plus profonds grâce à l'essence vivante d'une mystérieuse toile quantique. Toutefois, à la différence d'une toile d'artiste classique, qui n'existe qu'à un endroit et à un moment, la nôtre est de la même substance que tout. Elle est partout, elle est omniprésente. Et même si l'on imagine traditionnellement les artistes comme étant séparés de leur œuvre, à l'intérieur du champ, la séparation entre l'art et l'artiste disparaît. Nous sommes la toile autant que les images. Nous sommes les outils autant que les artistes. Tout comme ces derniers travaillent à raffiner une image jusqu'à ce qu'elle soit parfaite selon eux, nous semblons faire de même dans nos relations. Par notre palette de croyances, de jugements et d'émotions, nous vivons les relations qui nous permettent de parfaire la toile de notre vie. Tout comme un artiste refait le même tableau en cherchant à parfaire l'expression d'une idée, nous sommes de perpétuels artistes en train d'élaborer une création toujours changeante et jamais terminée. Le fait que nous avons créé un monde malléable a des implications vastes et importantes que certaines personnes peuvent trouver un peu effrayantes. Soudain, notre capacité d'utiliser le champ d'une façon intentionnelle et créative, nous permet de changer complètement la conception que nous avons de notre rôle dans l'univers. Du moins, elle suggère que la vie est bien plus que des événements aléatoires et d'occasionnelles formes de synchronicité avec lesquelles nous nous arrangeons le mieux possible. En définitive, notre relation à l'essence quantique qui nous relie à tout le reste nous rappelle que nous sommes des créateurs. En tant que tels, nous pouvons exprimer nos désirs les plus profonds de guérison, d'abondance, de joie et de paix sur tous les plans de notre corps et notre vie en passant par nos relations. Et nous pouvons le faire consciemment au moment et de la manière qui nous convienne. Des plis dans le champ. Dans cette vision quantique du monde, toutes nos expériences peuvent être considérées comme des plis qui perturbent un champ d'énergie autrement harmonieux. Ce n'est peut-être pas un hasard si des traditions anciennes, spirituelles et poétiques décrivent notre existence fort parallèlement. Les traditions védiques, par exemple, décrivent un champ unifié de pure conscience qui baigne et imprègne toute la création. Dans ces traditions, nos pensées, nos sentiments et nos émotions, comme la peur et le jugement qu'ils créent, sont considérées comme des perturbations, des ruptures dans un champ autrement lisse et immobile. De même, au 5e siècle, le Xing Xing Ming, poème sur la foi en l'esprit, décrit les propriétés d'une essence qui est le schéma de toute la création. Cela s'appelle le Tao, et tout comme dans les textes védiques, il est ultimement indescriptible. Le Tao est tout ce qui est. C'est à la fois le contenant de toute expérience et l'expérience même. Le Tao, dit-on, est parfait, comme un vaste espace où rien ne manque et rien n'est de trop. Selon le Xing Xing Ming, c'est seulement lorsque nous perturbons la tranquillité du Tao par nos jugements que son harmonie nous échappe. Lorsque l'inévitable se produit, et que nous voilà empêtrés dans des sentiments de colère et de séparation, le texte offre des consignes visant à remédier à cet état. Pour s'harmoniser directement avec cette réalité, il faut dire, en cas de doute, « pas deux ». Dans ce « pas deux », rien n'est séparé, rien n'est exclu. Avouons-le, le fait de nous considérer comme une perturbation du champ peut enlever une partie de son charme à la vie. Mais par ailleurs, il nous donne une façon importante de considérer notre relation à notre monde et à nous-mêmes. Si nous voulons créer des relations nouvelles, saines et positives, apporter l'amour qui guérit dans nos vies ou une solution pacifique aux problèmes du monde, par exemple, nous devons créer dans le champ une nouvelle perturbation qui reflétera notre désir. Nous devons créer un nouveau pli dans l'étoffe de l'espace, du temps, de notre corps et du monde. L'utilité et le pouvoir du « je veux ». Nous employons couramment l'expression « je veux » en énonçant dans l'instant l'intention de faire ou de dire quelque chose à un moment futur. « Je veux sortir les rébus demain matin » ou « je veux acheter du pain en rentrant du travail ». Ce sont là des exemples de cet usage de l'expression. Dans ces affirmations, dire « je veux » indique que, même si nous planifions de faire une chose, celle-ci n'arrive pas dans l'instant présent. Nous affirmons que cela arrivera à un certain moment de l'avenir qui peut survenir dans la minute suivante ou à des heures et des jours ou même plus du moment présent. Nous y comptons. Et notre intention peut être absolument sincère. Cependant, affirmer que nous ferons quelque chose à un autre moment ouvre la porte à la procrastination et à des circonstances atténuantes qui empêcheront l'intention prévue de se concrétiser un jour. Dans les traditions bibliques, nous voyons une autre façon de considérer l'expression « je veux » et son usage dans nos vies. Notez ici que j'aborde des textes bibliques en tant que document historique de sagesse, non en tant que texte de doctrine religieuse. Dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, par exemple, rapporte un échange public entre le maître érudit Jésus de Nazareth et un homme malade qu'il a approché en lui demandant de le guérir. Au chapitre 8, versets 2 et 3, l'Évangile décrit le résultat visé. Le compte-rendu commence lorsque l'homme s'approche de Jésus et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Cette phrase prépare la venue de deux événements. Elle crée les conditions nécessaires à la guérison. L'homme guérit. En demandant de l'aide, l'homme tire parti de cette occasion de recevoir sa guérison personnelle. Autrement dit, il est prêt à accepter le changement possible et affirme son consentement à l'univers. Le compte-rendu décrit ensuite le geste physique de Jésus et les paroles qui l'accompagnent. Jésus lui tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dans ce compte-rendu historique, on nous montre un usage très différent du concept de volonté personnelle ou de volonté tout court. Nous voyons ici l'usage de la volonté pour modifier une expression du champ. Soyons clairs, c'est très différent de l'intention. Jésus n'a pas affirmé qu'il avait l'intention de faciliter la guérison du malade à quelque autre moment, comme l'aurait impliqué l'usage traditionnel du « je veux » sous forme d'affirmation au futur « je veux te guérir ». Ici, le « je veux » sert à déclarer l'existence d'un résultat déjà présent. « Je le veux » est la déclaration, « sois pur » est le résultat. Par cet usage du « je veux », Jésus reconnaît ces choses. 1. Le champ confirmé par la science moderne recèle tout ce qui se produit dans notre monde. Sa relation présente et active avec le champ et le rôle de sa conscience dans la modification du champ par un acte de volonté. Tout comme nous le faisons par une affirmation directe qui commence par le résultat, Jésus déclare le résultat. Il assume sa relation au champ. Par cette déclaration, son affirmation suivant les mots « je veux » devient réel, vrai et manifeste.